ce premier panel, cette première session, va nous replonger au cœur de ce sujet, puisque c'est une session plutôt épistémologique, consacrée aux méthodes et manières de pratiquer la philosophie en féministe. Donc je vais présenter les unes après les autres les intervenantes. Peut-être que ce qu'on va faire, c'est vous écouter toutes les unes après les autres, et puis ensuite... La discussion sera ouverte, comme ce matin, avec la salle. Donc, on va commencer par écouter Cécile Gagnon et Marianne Caslot. Donc, Cécile Gagnon est doctorante et chargée de cours en philosophie à l'Université de Montréal, spécialiste des théories du care et des approches beauvoiriennes, et tu travailles à développer une méthodologie narrative proprement féministe à l'aune d'une approche à la fois éthique et phénoménologique. Et donc, vous allez intervenir à deux voix avec Marianne Caslot. Marianne, tu es doctorante en phénoménologie féministe à l'Université Laval. Tes intérêts de recherche concernent les perspectives féministes en phénoménologie existentielle. Tu travailles sur la question de savoir comment les sujets incarnés prennent place dans l'espace selon leur genre, comment cela est interconnecté aux différents rapports sociaux. Et tu travailles également sur les aspects féministes de certains affects. Donc, je vais commencer par vous laisser la parole à toutes les deux pour une intervention intitulée « Existante, une démarche de philosophie féministe incarnée ».
En fait, quand on parle de existante, on fait référence à un essai qui va bientôt paraître, que j'ai écrit avec Marianne, et on est venu en fait vous présenter un peu la démarche, la méthode propre à notre travail conjoint toutes les deux. Vous savez, dans l'introduction de Philosophie féministe, patriarcat, justice, savoir et justice de Manon Garcia, elle parle de la philosophie féministe au singulier, et on fait le pari aussi de nous aussi parler de la philosophie féministe au singulier comme le domaine de recherche qui réunit toutes les investigations visant, et je cite Garcia, à produire des énoncés descriptifs et normatifs en vue d'identifier une oppression et d'y mettre fin. Donc, tous ces projets sont, selon Garcia, intrinsèquement à la fois politiques et épistémologiques. D'une part, ils travaillent à critiquer les structures de domination masculine, et d'autre part, ils remettent en cause l'hégémonie du point de vue masculin. Suivant Nancy Bauer, Manon Garcia affirme également que la philosophie féministe ne se contente pas d'offrir à la philosophie de nouveaux objets ou de nouvelles perspectives sur des objets connus, mais elle renouvelle les méthodes mêmes de la philosophie. Elsa Dorlin abonde dans le même sens quand elle nous explique que le corpus de la philosophie féministe, encore une fois au singulier, se caractérise en propre par le fait que ces philosophies problématisent, notamment d'un point de vue épistémologique inédit, le rapport que tout savoir entretient avec une position de pouvoir toujours matériellement située, instituée et intéressée, qu'il la renforce, la renverse ou la modifie en retour. Mener une investigation philosophique proprement féministe n'est pas simplement de nommer les structures oppressives et de montrer leur imbrication. Pour nous faire de la philosophie féministe, c'est aussi chercher à mettre en lumière les sources et le fonctionnement des structures d'oppression, sexistes notamment, afin de les dénouer, donc avec un projet politique clair. Pour ce faire, l'approche préconisée par de nombreuses féministes contemporaines, mais aussi comme celle qui était dans le panel de ce matin. J'ose pas utiliser « ancêtre », même si c'est elle-même qui l'utilisait, mais souvent vont chercher à s'intéresser à l'expérience vécue de l'oppression pour la comprendre. Donc, elles vont chercher à décrire et à comprendre comment l'oppression s'incarne dans la vie quotidienne des femmes, et ce, sans pour autant, évidemment, considérer que cette expérience est absolue, naturelle ou nécessaire pour être une femme. Donc, l'investigation, qui est toujours déjà politique, est celle de l'expérience d'être et de devenir femme. On opère donc un renversement complet dans un mouvement d'investigation qui part d'existences singulières et de sujets qui n'ont rien du tout d'universel, qui sont dans la plus grande singularité de leur expérience. Ainsi, prendre l'existence comme siège et produit de l'oppression est une méthode nouvelle en philosophie, au sens où c'est quelque chose qui nous permet d'atteindre les visées d'un projet à la fois politique et épistémique, mais pour tout, d'un même côté, donc à la fois très nouveau, mais en même temps, qui nous revient ou qui est hérité du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Donc, pour nous, cet intérêt ou cette lumière épistémologique ou ce mouvement épistémologique qui prend comme point de départ l'expérience vécue singulière est un héritage, évidemment, de Simone de Beauvoir, qui d'ailleurs, selon Nancy Bauer, demeure l'exemple vraiment paradigmatique d'une démarche qui est à la fois philosophique et féministe et qui est même pour elle encore, encore aujourd'hui la méthode à privilégier même pour le féminisme de troisième vague. C'est en raison notamment de la forme unique de l'investigation que le deuxième sexe, pour Bauer, est un point de départ particulièrement prometteur pour toute investigation de ce type, donc investigation à la fois philosophique et féministe. Bauer, vous le savez, utilise ses expériences personnelles, les expériences de ses amis, des observations de la vie quotidienne, ainsi que des œuvres littéraires et des études scientifiques pour généraliser à partir d'une multiplicité de vies et d'expériences en première personne et faire apparaître des expériences types, des figures types. Donc, son propos n'a jamais ni les travers d'une analyse qui est simplement subjectiviste ou particulière, ni ceux non plus d'une analyse masculine qui figerait des expériences distinctes dans une naissance ou une hypothèse d'une naissance féminine. Bauer nous dit donc qu'en personnalisant la question, par exemple, de la différence sexuelle dans le cas du deuxième sexe, donc en partant de son expérience singulière et intime de ce qu'est être une femme pour elle, pour Simone de Beauvoir, on est en mesure, avec une telle démarche, d'éviter notamment, et puis ça fait un peu écho à la discussion de ce matin, mais notamment on arrive à éviter les termes du débat essentialisme-anti-essentialisme. Pourquoi? Parce qu'évidemment, Beauvoir n'a aucune prétention d'universalité lorsqu'elle décrit des expériences. C'est justement parce que toutes les expériences sont différentes qu'elle prend le temps de nous raconter toutes ces expériences singulières. Elles sont donc bien réelles, mais toujours particulières et inscrites dans un temps et un espace unique. Les travaux de Simone de Beauvoir donc, ne systématisent pas l'expérience humaine et ne le situent jamais dans le domaine de principes abstraits, mais demeurent tout le temps au niveau de l'expérience sensible et distincte. En ce sens, il nous semble, surtout pour Marianne et moi, dans une perspective phénoménologique, que Beauvoir a ni plus ni moins que modifié la phénoménologie sur un plan épistémologique pour vraiment réussir à lui donner une portée politique, c'est-à-dire à faire voir la façon dont s'incarne l'oppression dans des expériences vécues quotidiennes singulières et surtout incarnées. Il a vraiment créé le cadre épistémologique et politique unique qui permet vraiment de faire une investigation de l'expérience concrète de l'oppression sexiste. Ainsi, ce renouvellement de la phénoménologie permet non pas simplement d'offrir aux expériences personnelles un statut révélateur, je cite ici encore Manon Garcia, mais la phénoménologie devient vraiment capable de montrer comment le fonctionnement des grandes structures qui font la vie et comment elles sont vécues par les individus. Camille Froide-Vrométrie, qui est ici présente, suggère de voir dans cette pratique phénoménologique de Beauvoir un exemple de ce que Nathalie Desprasses nomme la phénoménologie expérientielle, dans le cadre de laquelle dire « je », ce n'est pas écrire à la première personne, laquelle démarche aspire en réalité à l'universalité du « nous » des philosophes, mais reconduit une conception et qui reconduit une conception du sujet qui a toutes les apparences d'une entité métaphysique non incarnée. Dire « je », comme Beauvoir dit « je », c'est assumer une prise de parole incarnée, c'est parler en première personne. Ce type de phénoménologie mobilise les récits singuliers et une attention à l'ordinaire. C'est d'ailleurs cette méthodologie toute particulière qui permet de mener pour nous une investigation, comme je vous le disais, phénoménologique, proprement féministe, puisque le recours aux récits singuliers permet de rendre compte des phénomènes sans jamais aspirer à une position de surplomb. Évidemment, c'est bien connu, si on n'est pas les premières à dire que le récit personnel est souvent mobilisé en philosophie féministe. Elsa Dorlin aussi le souligne dans plusieurs de ses livres de l'importance du récit pour le savoir féministe. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'était dans le cadre de notre essai, de vraiment mettre en pratique, non seulement pour expliciter l'importance ou l'intérêt de cette méthode, mais expliciter également en termes même phénoménologiques, mais en termes en première personne, ce que nous permettait de faire cette méthodologie. Pour nous, faire la phénoménologie critique ou expérientielle, c'est mener des investigations à partir de son corps, fragile et noué, dans un réseau complexe de relations intimes, économiques et politiques. Ce faisant, nous opérons un renouvellement et un élargissement de l'étalement philosophique. Nous pensons le monde et les phénomènes qui le composent à partir de nous-mêmes, de notre genre, notre assignation à des rôles sociaux spécifiques, de la couleur de notre peau, de notre orientation sexuelle et de nos relations interpersonnelles. Notre posture incarnée dans le monde nous donne non seulement accès à ce dernier, mais façonne également la manière dont les phénomènes se présentent à nous. C'est par notre façon particulière d'entrer en relation avec ces phénomènes et avec autrui qui détermine ensuite s'il s'agit ou non de sujets dignes d'investigation à nos yeux. Notre objet, c'est l'oppression sexiste. phénomène qui prend de multiples formes et qui nous affecte intimement. Ainsi, parler de justice ou d'oppression ne se fait jamais qu'en considérant la manière dont l'oppression se présente et s'incarne dans nos corps et dans nos activités de tous les jours. Notre rapport à l'injustice, donc, part de nos corps, des marques visibles et invisibles que la violence sexiste et sexuelle y ont laissées. Nous nous attendons à ces dernières pour en comprendre l'origine et surtout pour voir qu'elles n'ont rien d'anecdotique, qu'elles sont le produit de structures idéologiques, culturelles, économiques et politiques. En réservant dans notre démarche une grande place au récit de soi, au récit en première personne, on essaie de montrer évidemment ou de remontrer d'une nouvelle façon que l'intime est politique. Notre démarche d'écriture part de nos tripes, de nos ventres et nous indique ce qui compte. Si notre attention se porte d'abord sur des pratiques ordinaires du corps et ses expériences quotidiennes, elle se tourne ensuite vers l'exploration et l'explicitation de ces expériences pour rendre compte de leur dimension typiquement féminine, pour reprendre ici l'expression de Iris Young.
Moi, je vais vous parler un petit peu plus spécifiquement de notre projet de livre qui est en cours de révision à notre maison d'édition, juste pour vous donner un petit aperçu exclusif de son contenu. Après avoir cheminé longuement dans le milieu universitaire québécois de la philosophie, après avoir collaboré ensemble à la création du seul colloque de philo-féministes, je pense qu'il n'y en a pas d'autres, au Québec, après avoir partagé plusieurs réflexions militantes personnelles à propos de notre parcours, qui a été similaire, mais en même temps pas tout à fait similaire, on a décidé d'écrire un livre introductif à la philosophie féministe qui nous tient à cœur. On a été plusieurs fois les féministes de service dans de nombreux colloques et dans nos séminaires en philosophie, dans nos départements respectifs. Alors, pourquoi pas incarner résolument notre posture féministe et philosophique dans l'écosystème littéraire et scientifique québécois / francophone avec notre essai phénoménologique sur des grands thèmes de philosophie féministe. Donc, comme Cécile l'a dit juste avant, on utilise beaucoup les récits personnels, les récits de soi, mais on a aussi un objectif quand même didactique de présenter certains thèmes de la philo-féministe qui nous tiennent à cœur. C'est vraiment un livre qui est un hybride de nos sujets de thèse doctorale, mais c'est aussi un aperçu de ce qu'on enseigne respectivement dans nos cours d'introduction à la philosophie féministe, spécifiquement au premier cycle au Québec. On a toutes les deux une spécialisation en phénoménologie féministe maintenant, bien que Cécile soit préalablement spécialisée en éthique du care et en philosophie politique. Notre approche de phénoménologie féministe va teinter l'ensemble de notre manuscrit, mais on va traiter d'autres thématiques de philosophie féministe contemporaine. On va aborder vraiment plusieurs thèmes comme les dualismes, le care, les injustices épistémiques, l'oppression, les violences, et les écoféminismes et le rapport à la nature. C'est vraiment un livre qui est un hybride de nos dadas, comme tu as dit, nos dadas en philo. Et donc, on veut vraiment les mettre à l'avant-plan, montrer la richesse et la diversité qu'offrent les perspectives féministes en philosophie. On veut faire voir les critiques, mais également les propositions originales de ce corpus qui a été considéré encore trop longtemps comme secondaire dans le canon philosophique traditionnel. Donc, on veut vraiment rendre visibles ces sujets qui ont été invisibilisés dans la tradition philosophique. On a un livre qui a 6 chapitres, plusieurs thèmes qu'on aborde. On va partir de ce qu'on appelle la subjectivité multidimensionnelle pour en finir avec le sujet universel, déconstruire un peu cette idée de sujet qui est... homogène et autonome, indépendant du canon philosophique. On va regarder les dualismes qui ont un peu construit la tradition philosophique et en quoi ça a été utilisé comme des armes contre les sujets minorisés, les sujets altérisés. On va regarder vraiment l'ensemble des écoles, des pensées du care, le travail du care, où est-ce qu'on va regarder la vulnérabilité, qui est vraiment comme une bonne partie des travaux de Cécile. On va aussi regarder les thèmes de la justice épistémique pour travailler vers un concept de sujet qui est crédible, entendu et reconnu dans toute sa complexité.
Ensuite, on regarde aussi un chapitre sur apprendre à se défendre. On a été très inspirés par le travail de Elsa Dorlin, mais on a aussi regardé, j'ai regardé certains affects, des affects qui sont genrés, comme le doute de soi, le doute, la méfiance, la confiance, comment, en lien avec les injustices épistémiques, comment certains sujets ne sont pas en sécurité comme agents épistémiques, mais aussi concrètement ne sont pas en sécurité dans la société en général. On finit avec un petit chapitre quand même hybride et intense sur la corporalité, la naturalité, la décolonialité, qui fait partie d'un peu mon corpus, mais maintenant ton corpus aussi, sur les écoféminismes. On aborde justement les débats entre l'essentialisme et l'anti-essentialisme. J'ai bien apprécié que Isabelle Sengers en parle ce matin, comment ça a été des armes pour faire taire certaines voix, faire taire certains débats. On en parle aussi dans notre manuscrit. Et donc, on veut vraiment que notre manuscrit soit un ouvrage introductif qui incite le lectorat à pousser plus loin leur réflexion philosophique et féministe. Puis, spécifiquement dans le contexte québécois, la philosophie s'enseigne au niveau collégial pour l'ensemble de la population qui passe par le chemin des études postsecondaires. Ça veut dire qu'on a l'ensemble de la population qui font des études postsecondaires ont des cours de philosophie obligatoires. Et donc, on voudrait, ben, en tout cas, moi, c'était un de mes espoirs, on va voir si ça se concrétise après la parution du livre, que ce soit un livre qui puisse ouvrir les réflexions au collégial pour encourager à explorer la philosophie féministe. Puis aussi que ce soit un outil pédagogique pour les professeurs. OK, c'est bon, j'ai presque fini. Ça va être... donc, on espère que ce manuscrit va s'inscrire dans les projets critiques contemporains comme le projet Atopos au Cégep Lévis-Lauzon qui a pour mission de décoloniser la philosophie, développer une vision plus complète de l'être humain, je les cite, ou encore tous les travaux qui sont faits par la chaire en éthique féministe de la professeure Naïma Amrouni à l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'UQTR, oui, c'est ça. Je pense que malgré le fait qu'on soit en France, qu'il y a, comme il a été dit ce matin, plusieurs ouvrages francophones qui couvrent des grands thèmes de philosophie féministe, spécifiquement dans le contexte québécois, il y en a très peu. Il y a très peu d'essais phénoménologiques qui vont couvrir tous ces thèmes-là de la philosophie féministe. Alors, on veut vraiment positionner notre manuscrit comme un ouvrage didactique pour l'enseignement de la philosophie féministe, mais aussi pour l'introduction à la philosophie féministe, bien qu'on développe dans l'essai une réflexion philosophique et personnelle qui n'est pas exhaustive, qui part de nos intérêts doctoraux. Alors, voilà, je pense que j'ai fini mon 2 minutes. Merci beaucoup.
Merci à toutes les deux. J'en profite pour dire quelque chose que j'aurais dû vous dire d'emblée, que j'ai oublié de vous dire et je m'en excuse. C'est qu'on a la chance d'avoir à distance, même si vous ne la voyez pas, Vanina Mosiconacci, qui est donc maîtresse de conférence en philosophie à Montpellier et spécialiste de théorie féministe, qui est rapporteuse sur cette session, donc que vous entendrez lors de la séance conclusive demain après-midi pour ouvrir des pistes à partir de ce qu'elle aura entendu de vos interventions. Donc merci Vanina d'être avec nous, même si tu es à distance. Je vais donc maintenant passer la parole à Bénédicte Gatter. Bénédicte Gatter est doctorante allocataire au LEGS, donc le laboratoire d'études sur le genre et les sexualités. Elle mène actuellement un travail de thèse en philosophie en études de genre intitulé « Défaire le genre pour refaire nature, alliance queer et écoféministe des années 1980 à nos jours » sous la direction de Fabienne Brugère et Florence Kemex. Donc Bénédicte va intervenir sur le thème « La philosophie de terrain, effets et enjeux depuis une perspective écoféministe ».
Oui, merci beaucoup pour ton introduction. Je tenais d'abord à remercier chaleureusement le comité organisateur du congrès pour son invitation. Donc, c'est une très grande joie de pouvoir parler aujourd'hui devant vous et que ce soit l'occasion de se rencontrer, de s'écouter, d'échanger. Pour ma part, je vais vous parler de mes recherches actuelles en doctorat. Donc, je suis en deuxième année. C'est encore très jeune pour un travail de thèse et qui comporte un volet purement théorique, entre guillemets, et un volet qui les rattache à ce que l'on a pris désormais coutume de nommer la philosophie de terrain, sans par ailleurs, pour le coup, que dans mon travail, les deux soient nettement séparés. Pour précision, donc ça a été déjà dit par Marie, donc je travaille sur les alliances théoriques notamment entre écoféminisme, pensée écoféministe et théorie queer des années 1980, donc qui correspondrait à l'émergence du versant théorique de l'écoféminisme à nos jours, mais aussi sur donc les liens concrets tissés sur le terrain des luttes et pas seulement donc que dans l'élaboration de la pensée. En réalité, chez les écoféministes, c'est là aussi ce qui m'amène au sujet que l'on va aborder. Les deux ne sont jamais séparés et cela même constitue un enjeu en réalité dans leur volonté de dépassement des binarités. Donc je crois qu'il en a été question ce matin aussi. Que notamment la philosophe écoféministe états-unienne Karen Warren a nommé le cadre conceptuel patriarcal et qui rejoue des séparations stériles. Donc pour aujourd'hui, je vais vous partager des réflexions en cours qui vont faire écho, je pense, à ce qui a été dit juste avant, à propos d'une méthodologie qui ne demande, je pense, qu'à être discutée et retravaillée. Donc je suis preneuse de tous vos retours et qui comporte encore un bon nombre d'indéterminations et sans doute de problèmes à résoudre. Nous allons donc voir ensemble ce à quoi peut ressembler une pratique de philosophie écoféministe de terrain. Alors ça va être terrible parce que je vais vous parler de choses très concrètes de manière extrêmement abstraite. Mais bon, on essaie de s'outiller conceptuellement avec la philosophie de terrain et parfois c'est compliqué, c'est pas juste on a chacun nos données et on en fait quelque chose de philosophique. Donc voilà, je vais essayer d'apporter ma contribution à ça, modestement. J'ai un peu modifié le titre de ma communication depuis l'élaboration du programme et cette présentation s'intitule en définitive, c'est une proposition ici, la philosophie de terrain prise depuis une perspective écoféministe ou comment être affecté en théorie, théorie avec un T majuscule au sens de territoire et d'espace duquel nous devons répondre depuis les mondes académiques dans lesquels nous évoluons. Depuis qu'elle a rejoint les rangs de l'université, la philosophie écoféministe se propose de faire retour sur la tradition culturelle de la philosophie occidentale pour mieux s'en extraire. Et c'est le geste de Val Plumwood, notamment dans Feminism and the Mastery of Nature, qui s'adresse à l'académie en s'appuyant sur un corpus canonique, relisant Aristote, Platon ou Descartes. Du reste, s'éloignant d'une conception d'objet stabilisé par une abstraction théorique, qui serait le postulat d'une philosophie classique positiviste, l'un des mouvements possibles de la philosophie écoféministe est de se tourner donc vers le terrain. Cette pratique méthodologique endosse alors le rôle de fer de lance critique et de motif de revitalisation de la pensée tel que l'a décrit Christiane Voller, qui a ouvert cette voie de la philosophie de terrain en France. L'ancrage aussi épistémique des humanités écologiques, avec des figures comme celle de l'anthropologue Deborah Bird-Rose, qui était par ailleurs très proche et qui a travaillé à Sydney avec Val Plumwood, je considère également cette approche de terrain comme une approche sensible de mes objets de recherche, qui ne sont alors plus seulement des objets au sens restrictif du terme. Elle relèverait, comme chez Tom von Doren, proche penseur de Bird-Rose, qui se décrit lui-même d'ailleurs comme field philosopher, elle relèverait donc cette approche à la fois d'une attention engageante, d'une perceptude, on va revenir sur ce concept soutenu, et d'une réflexivité qui en appelle à la responsabilité au sens araouien du terme, au sens donc de responsibility, capacité à répondre. D'autre part, pour en revenir à l'écoféminisme, ce dernier reste avant tout informé par des pratiques et qu'il recherche, comme je l'ai déjà dit, à renouer des liens brisés, que ce soit entre théorie et pratique, entre activisme et production de textes, de connaissances, d'archives et la mise en œuvre de nouveaux récits. Son but étant d'échapper aux épistémologies andro-anthropocentrées hégémoniques, je crois que c'est aussi tout l'objet de votre ouvrage, et de faire, nous, en tant que chercheuses écoféministes, de faire de nous, en tout cas, leurs fugitifs et leurs fugitives. La production de savoir résolument située est par conséquent un enjeu politique et éthique écoféministe centrale. Et il nous semble, entre parenthèses, que le terrain des luttes ne demande pas d'abandonner le champ du savoir et des connaissances qui peuvent faire l'objet d'un véritable reclaim. Je sais que le temps file très vite, mais pour problématiser un peu ce qu'on va voir ensemble, il nous a semblé en tout cas que la perspective de la philosophie de terrain permettait de lutter contre une forme de fixité de la pensée. Elle serait en quelque sorte sa remise en mouvement, plus encore que sa réactualisation simplement théorique dans une perspective de philosophie critique. En effet, la philosophie de terrain autorise d'une part, donc c'est le plan de ma présentation, premièrement à penser les affects, ce qui nous touche dans le monde, d'y être connecté, d'y être branché, de prendre en compte ce qui ne l'est pas ou pourrait ne pas l'être, ce qui pourrait échapper à un cadre théorique trop rigide, comme des expériences incarnées qui tissent des réalités infra- et transcorporelles complexes. Elle autorise d'autre part et amène au développement d'une éthique, d'une forme d'éthique des sensibilités. Et du reste, elle invite à réfléchir à propos de la posture de la chercheuse. Je pense que je n'aurai pas forcément le temps de développer ce dernier point, mais on pourra en rediscuter. Donc elle a réfléchir à la fois dans sa spécularité, sa diffraction possible, et en nous invitant à une réflexion sur notre place, donc en tant que chercheuse écoféministe en particulier, dans le monde. Donc c'est selon ces trois axes que je vais orienter cette présentation, avec premièrement la question de penser les affects, la prise en compte des affects. Faire de la philosophie de terrain, ça reste un gros bloc quand je dis ça, conceptuel, mais répond en tout cas à une préoccupation épistémologique de la pensée écoféministe qui cherche à prendre en compte ce qui déborde des cadres, je crois que ça a été aussi évoqué ce matin, et en particulier ce qui ne peut s'envisager depuis les partages disciplinaires institués. L'instabilité d'une telle méthodologie reste de mise. Et si l'on prend pour outil ceux pour autant classiques des sciences sociales, donc l'entretien, les focus groups, l'analyse de discours, les fragilités de l'enquête demeurent présentes et mieux encore, imposent de les prendre en compte tout au long du travail de recherche. En effet, ces fragilités sont la caisse de résonance des affects tout autant que des symptômes, si l'on souhaite parler dans les termes d'une forme de sémiologie de la recherche de terrain, au sens médical. Donc dans tous les cas, elles ont des choses à nous dire et ce sont des données à prendre en compte. Les affects, en effet, demandent un effort de problématisation de l'extériorité qui résiste parfois à la pensée afin de mieux s'ouvrir à la complexité du réel. Et cependant, nous devons l'admettre, échappera toujours pour partie à notre compréhension. Par ailleurs, aussi bien qu'ils nous traversent, les affects permettent de nous situer et également parfois de nous repositionner. Ils sont des indicateurs qui nous aident à nous orienter dans la recherche. S'en servir suppose de faire en sorte que la philosophie ne devienne pas cette matière sèche qui découperait le réel en petits morceaux isolés et friables, pour citer le psychanalyste, théologien et philosophe François Roustan. Et les affects, quant à eux, nous indiquent en ce sens qu'on ne pense pas toujours à partir de la pensée. Parfois, la pensée apparaît, pour ainsi dire, à l'improviste et demande de se disposer à la perception de l'involontaire. Donc la philosophie constitue, il me semble, un bon terreau pour ce type d'improvisation conceptuelle. La philosophie de terrain, à mon sens, constitue une forme d'indiscipline par rapport aux attendus de la philosophie classique, qui exige de soi-même, en tant que chercheuse et aussi en corps perceptif, une grande attention et ouverture au réel, à ses imprévus, à ses surprises, à ce trouble enfin, pour reprendre Haraway, qui peut en surgir et qui sont en mesure ainsi de faire état du caractère processuel du monde. Tout comme le deuil qui exige ce souvenir soutenu comme acte délibéré, si l'on parle en termes d'Héridien, il s'agit de maintenir une attention soutenue envers nos objets de recherche. La pratique de terrain ouvre ainsi précisément de nouveaux régimes d'attention, en particulier quand il s'agit de philosophie écoféministe. La pratique de la philosophie de terrain, c'est aussi un déplacement de l'attention qui nous fait passer ainsi d'une ontologie d'objets secs à une ontologie d'objets fluides, inattendus, surprenants, et qui nous permettent, qui insistent en tout cas eux-mêmes sur des aspects que nous ne voulions pas voir. Je vais avancer un petit peu, donc j'avancerai à ce sujet que le concept de perceptude provenant du champ de la psychanalyse pour un nouveau régime d'attention. Et cette invention terminologique correspond à un mode d'attention qui demande à se livrer à l'incertitude, puisqu'au contraire, la perception, elle ne passe pas par l'interprétation, par une élaboration seconde, mais demande de se livrer à ce qui nous entoure sans lui imposer un sens. Il ne s'agit pas non plus, comme le rappelle donc François Roustan, de rendre compte de l'entrée dans un autre monde, qui serait atmosphérique, invisible, bien qu'elle admette des subtilités qui échappent justement au regard scrutateur et objectivant, ou même magique. Nous n'en avons qu'un de monde, celui que nous partageons, et quelles que soient les dimensions multiples qu'on lui confère, la perceptude consiste en son appréhension la plus juste et la plus souple possible. Je cite toujours Roustan, « Elle suppose que la pensée ait pris corps et présuppose donc une sensibilité en alerte. » Donc pour un deuxième point, je vais vous parler d'une forme d'éthique de la sensibilité ou comment se rendre responsable des mondes dont on va à la rencontre. Et il me semblait que ce qui était intéressant avec ce concept de perceptude, c'est que ça pourrait être un bon outil d'épistémologie écoféministe, puisqu'il fait état aussi d'une relationnalité avec les autres et avec le monde. Roustan caractérise en effet cette notion de perceptude comme témoin d'une vie relationnelle et même comme gardienne des liens. Il développe, donc là je cite, « Elle est l'ère où nous ne sommes plus des observateurs fixes faisant face à des objets. Elle est le territoire dont nous participons pour en devenir une part insécable. Nous y sommes distinctes, mais seulement en vertu de ce que nous partageons. » Je vais peut-être essayer d'avancer un petit peu. La perceptude donc, témoigne aussi des liens mouvants de l'existence qui se retissent chaque jour, sans y apposer une grille de lecture préétablie ou encore stéréotypée. Elle permet une forme de perception renouvelée, et en somme, elle permet la rencontre et rappelle la nécessité du sentir pour lutter contre l'enfermement théorique. De surcroît, il me semble que c'est là un fondement épistémologique plus profond encore auquel s'attaque l'approche de terrain chez les écoféministes, qui sont donc héritières des épistémologies féministes du positionnement. En effet, la position épistémopolitique de l'écoféminisme se traduit par une manière, ou plutôt des manières, alternatives d'entrer dans les trames du savoir et donc du pouvoir. L'un de ses enjeux principaux consiste à se défaire notamment de l'idée du monde comme objet passif pour le penser comme lieu où nous vivons, comme un agent avec lequel nous cherchons à lier des dialogues non innocents et à inventer des façons de connaître, d'agir et de vivre responsables dont on peut répondre. Donc je cite Haraway, bien sûr. Il s'agit donc pour moi de développer une forme d'éthique de la sensibilité au sein de la recherche afin de nous mettre en relation de manière responsable et située avec nos objets d'étude. Il s'agit pour moi de ne pas désubjectiver les personnes que je rencontre dans mes différents lieux d'enquête. Et comme je vais aller un petit peu vite, il s'agit aussi de ne pas me désubjectiver en tant que chercheuse. Et je vais arriver à mon troisième point, donc qui est la question de la réflexivité autour de la posture de chercheuse et qui permettra, je pense, d'ouvrir à une discussion par la suite. La pratique de terrain en philosophie participe enfin d'un ancrage existentiel, pour reprendre Van Doren notamment, qui ne relève pas d'un simple méthodologisme, mais d'une inscription significative dans des espaces préexistants à la recherche. Comme c'est pour le cas pour mon doctorat, il s'agit de faire chemin philosophique avec des acteurs politiques qui prennent part à la vie de la cité, pour ainsi dire, et qui est aussi une façon de ne pas se tenir en dehors du monde. Et encore moins au-dessus. Je vous parle de choses extrêmement abstraites. Enfin, c'est terrible alors que je pourrais vous parler de mes terrains et des gens que je rencontre. Mais bon, voilà. Et encore moins au-dessus, donc c'est pas ce qu'exige ce genre de posture, qui exige l'abandon plutôt de la position surplombante de l'intellectuel du chercheur. Il s'agit en somme de ne plus jouer au ou à la philosophe, d'en jouer le rôle ou en prendre la posture, mais plus humblement de s'efforcer de le devenir. Et à mon sens, en tant qu'écoféministe, alors que la production de savoir est un enjeu en soi, en tant que processus de réapprentissage de notre place dans un monde partagé, c'est une longue phrase, il me semble important de se défaire d'habitudes propriétaires de pensée, pour le dire avec Emma Biget, philosophe et chorégraphe, et de pouvoir penser que les mondes que je partage pour ma part avec mes objets de recherche, c'est-à-dire des lieux de vie et de lutte, ainsi que des visions d'une futurité queer, ces mondes-là donc constituent, comme pourrait le dire Anat Singh, des réseaux intra-actifs de savoir dans lesquels je suis engagée au même titre que mes enquêtés. Donc j'aime pas ce mot, il faut en trouver un autre. Pour conclure, et pour reprendre ce que disait Christiane Voller dans le dernier ouvrage qui est paru sur le sujet, donc Manifeste pour une philosophie de terrain, elle identifiait trois exigences relatives à cette dernière, celle propre donc à une philosophie critique, comme on a pu le comprendre, celle d'un travail fondé, si ce n'est sur la relation d'entretien, comme elle le formule expressément, ce qui n'est pas forcément mon cas, du moins en tout cas sur une forme de relationnalité avec ses objets de recherche, et enfin l'exigence d'une réflexion esthétique. J'aimerais ouvrir sur la question du passage à l'écriture. Et si nous avons tenté de voir en quoi notre propre méthodologie pouvait répondre à ces exigences, nous n'avons pas abordé donc ce dernier aspect esthétique auquel elle correspondrait, ces questions d'écriture. Mais la partie conclusive de cet exposé m'en donne, je pense, l'occasion très rapidement. Je vais avoir fini. Et il me semble que le mode d'attention à mes objets de recherche que j'ai essayé de vous décrire peut être un mode d'attention qui permet de saisir la singularité des situations, des configurations et des contextes. Encore une fois, je ne vous en ai pas parlé concrètement, mais derrière tout ça, il y a du concret quand même. Mais demande d'un autre côté un moment de conversion, ou plus précisément de transposition, qui interviendrait dans et par l'écriture. La question reste ouverte pour moi, en plus que je ne suis pas du tout au stade de la rédaction du travail de thèse, mais la question reste ouverte sur les modes d'écriture à adopter afin de rendre compte au plus près de ce que je perçois de ces sites d'investigation sensibles, sans me contenter de retranscrire ou de retransmettre. Bon, évidemment, il n'est pas du tout de question de données quantitatives, ça vous l'avez compris, mais en quelque sorte de rendre au monde et aux rencontres avec des lieux, des collectifs, des personnes, ce qu'ils nous ont apporté et leur donné avec un peu de chance, si ce n'est un relief supplémentaire ou une visibilité neuve, du moins une manière d'exister non pas un peu moins, mais un peu plus dans le monde. La question reste ouverte, mais il me paraît que le champ de la philosophie de terrain offre également la possibilité de réfléchir à la question de l'histoire féministe au travers de ces différentes traditions d'écriture. Et car elle pose aussi la question de la transmission dans le champ des savoirs, ce qui donc se transmet, à partir de quand et comment, et aussi à destination de qui. Et j'ai envie d'ajouter, de poser la question de quelles sont les rencontres les plus urgentes à faire. Et hier, du coup, je participais à un colloque à Montréal, en visio, qui s'intitulait « Queeriser, dit-on ». Et je trouve qu'on a eu un très beau dialogue avec toutes les personnes en recherche-création. Et ça donnait des belles idées. Il y avait eu notamment une sociologue qui parlait pour son travail de thèse, d'écrire des chapitres comme autant de fragments qui ne visaient pas une systématisation de la pensée, mais qui rendaient compte des rencontres réalisées tout au long de la thèse, ainsi que de sa propre implication. Du coup, elle passait par l'emploi de l'écriture narrative, la mise en scène de discussions et la rédaction de correspondances fictives. Et elle utilisait donc de fait des écritures très variées qui puisent au sein de différents registres. Je me dis que peut-être je vais m'en inspirer au moment du travail de rédaction. Voilà, je vais m'arrêter sur ces quelques pistes à ce sujet qu'on pourra peut-être approfondir au moment de la discussion.
Merci, merci beaucoup Bénédicte pour ce respect du temps. Alors je dois dire que quand même on bénéficie cet après-midi d'un tout petit peu plus de temps pour chaque communication, parce que malheureusement l'une de nos intervenantes n'a pas pu être là pour raison de santé. Alors je vais maintenant passer la parole à Lucille Richard. Oui. Alors, Lucille est docteur en théorie politique et chercheuse associée au Centre de recherche et d'études politiques de Sciences Po, donc le CVPOF. Dans ta thèse, tu as mené une critique queer et féministe des analyses contemporaines du biopouvoir, centrée sur les rapports entre souveraineté, soins et violence. Tu es aujourd'hui postdoctorante à l'Université de Bâle et tu développes une pensée de la crise du care qui ne donne pas aux pourvoyeuses de soins un privilège épistémique et éthico-politique par rapport à leurs réceptrices. Donc nous allons t'écouter pour une présentation intitulée « Contre le care washing, plaidoyer pour une exégèse féministe des pensées critiques contemporaines ».
Ma présentation aujourd'hui part du constat suivant. Si l'exégèse féministe comme méthode critique permettant d'exposer les biais genrés qui caractérisent la conceptualisation philosophique est considérée comme un outil décisif pour démontrer la misogynie des textes clés de la tradition occidentale, elle reste, en particulier en France, peu employée pour mettre à l'épreuve les pensées critiques en train de se faire. Malgré le sentiment diffus que chez beaucoup d'entre nous, je pense que certaines de ces pensées critiques, sous couvert de décortiquer les rapports de pouvoir, leur mode d'exercice et leur mode de stabilisation, continuent de drainer un certain nombre de présupposés cis-hétérosexistes, la constitution d'une herméneutique à même de les contrer n'apparaît pas comme une priorité. Soit qu'on considère que le moment est la construction en autonomie de cadres de pensée qui viendraient les supplanter, soit qu'on estime que de tels cadres gagnent à être élaborés en dehors du champ philosophique, voire du champ universitaire lui-même. Cette communication fait, au contraire, l'hypothèse d'un intérêt stratégique, à la fois sur le plan théorique et sur le plan politique, à la constitution d'un bloc féministe, là, maintenant, agissant contre la production et la diffusion de savoirs critiques qui consolident, voire génèrent, des imaginaires politiques et éthiques marqués par l'universel masculin. Partant du constat qu'un tel male gaze est, bien souvent, aujourd'hui dissimulé par la reprise de la critique féministe du sujet libéral comme sujet autosuffisant, invulnérable et souverain, ma communication développe, à partir d'un exemple, celui de la pensée éthico-politique d'Achille Mbembe, l'idée qu'il est nécessaire de riposter à l'appropriation de lexique féministe, en particulier celui du care, qui non seulement invisibilise celles qui l'ont produit, mais participe à les vider de leur contenu subversif. En mettant en exergue comment fonctionne chez Mbembe un tel care washing, je souhaite suggérer que les pratiques de contre-lecture féministe permettent non seulement de raffiner et d'enrichir nos analyses des mécanismes par lesquels la masculinité hégémonique est reconduite dans des projets de libération supposément attentifs aux rapports de pouvoir, mais aussi conséquemment de s'armer contre de tels projets. En d'autres termes, au constat qu'on ne va pas détruire la maison du maître avec ses outils, j'en ajoute un, qui est: que fait-on lorsque nos propres outils sont utilisés pour le maître pour reconstruire les fondations de sa propre maison? Quelques remarques préliminaires. Donc, le concept de care washing, je l'emprunte aux théoriciennes du care collective qui décrivent dans le Care Manifesto le care washing comme une forme de capitalisation, je cite, sur la crise du care. Elle s'intéresse là à des entreprises qui se présentent comme recherchant à mieux satisfaire nos besoins tout en utilisant, participant explicitement à la néolibéralisation de leur satisfaction. Ici, évidemment, ce n'est pas dans ce sens que le care washing est utilisé, puisque ce sont sur des textes théoriques que je me concentre. La capitalisation sur la crise du care, elle apparaît ici plutôt dans le fait de s'approprier des contenus qui visent à penser et à combattre la crise du care, tout en participant à justifier de manière plus ou moins explicite la division sexuelle du travail de care sur laquelle cette crise repose, et à diffuser donc des horizons de délibération qui la laissent principalement intacte. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est sur le choix de se pencher sur le cas Mbembe. Cela s'explique d'abord, comme l'a noté Marie, par le fait que c'était là mon sujet de recherche doctorale, celui-ci portant sur les biais virilistes des pensées biopolitiques contemporaines. Comme vous le savez, Mbembe est l'un des principaux représentants de ces pensées biopolitiques contemporaines, donc ça faisait sens à coder d'autres héritiers, Agamben, Esposito, Arte Negri en particulier, d'analyser son projet de libération à l'aune des théories du travail féminisé. Je suis consciente que l'isoler ici devant vous ces héritiers qui sont principalement des héritiers blancs et du fait de ma propre position de femme blanche des effets particuliers que je voudrais questionner plus précisément en soulignant que ce choix repose sur trois considérations qui ne neutralisent pas ma position, mais qui permettent, je crois, et je suis là aussi pour en parler, la problématise dans un horizon antiraciste. La première de ces remarques, c'est le fait que la critique que je porte sur le texte Mbembéen est d'abord une critique de son usage du canon de la philosophie politique et éthique occidentale blanche et de ses développements foucauldiens contemporains, en particulier de la manière dont Mbembe utilise les travaux de Giorgio Agamben. Elle relève de ce fait la critique moins d'une mise en cause de l'importance d'une décolonisation de la pensée que de la reconnaissance de sa nécessité. L'objet, en d'autres termes, de mon analyse n'est pas la misogynie noire. Je ne crois pas déontologiquement être en position de la théoriser, mais la masculinité hégémonique. Il s'agit de montrer comment le fait de se reposer sur un corpus blanc et misogyne participe à reconduire les fondements philosophiques de l'universel masculin et à renforcer, d'un point de vue éthique et politique, l'idéologie viriliste sur laquelle il repose. La deuxième considération, c'est le fait que la manière dont ce philosophe noue une critique des fondements racistes du biopouvoir à la théorisation de ce qu'il appelle un nouveau pacte de soins participe à effacer, dans le projet éthique et politique du care lui-même, les questions pourtant théorisées par les féministes noires et racisées du rapport entre esclavage, care et colonialisme. En d'autres termes, Ma communication fait signe vers un refus de participer à l'invisibilisation du rôle historique et aujourd'hui décisif de celles qui, à l'instar de Patricia Hill Collins, Evelyn Nakadoglen ou encore Marie Gassier-Castro, ont fait et pensé le care et le travail reproductif de manière plus générale. Elle ne fait pas signe vers l'idée qu'elle apprendrait quelque chose à ces penseuses, qu'elle construirait quelque chose d'innovant pour celles qui s'inscrivent dans leur pas ou se ferait le porte-parole de leur héritage. La troisième considération, c'est le fait que je présume dans cette salle une plus grande familiarité avec le concept clé de Membe, à savoir le principe nécropolitique, qu'avec les autres concepts clés de mes auteurs. Pour rappel, au cas où celui-ci ne serait pas connu, le principe nécropolitique renvoie chez Membe à un principe dont le moteur principal est le racisme et la première occurrence, le régime de la plantation, et qui opère, je le cite, une sorte de réversion entre la vie et la mort, en organisant souverainement, je le cite encore, une économie sacrificielle dont le fonctionnement requiert l'abaissement généralisé du prix de la vie et l'accoutumance à la perte. Membe utilise ce concept pour démontrer que le biopouvoir, comme mode de discipline des corps et de régulation des populations, visant le profit économique et la docilité politique, fonctionne en dernière instance sur la distribution de la mort et la justification, je le cite, des fonctions meurtrières de l'État. Il éclaire ainsi le statut de mort-vivant, c'est un terme de Membe, réservé à celles que cette distribution vise, et la double logique de destruction et de terreur qui caractérise de ce fait leurs conditions d'existence. Se concentrer, en d'autres termes, sur l'horizon de libération que Membe décrit à partir de ce concept, permet, je crois, une communication à la fois plus efficace dans le temps qui m'est imparti et plus immédiatement claire dans ces enjeux pour des théorisations féministes qui cherchent à désinvestir les mécanismes de blanchiment des savoirs, blanchiment que l'on sait caractéristique des modes de production et de diffusion actuels à l'intérieur de la pensée féministe, mais plus généralement à l'intérieur de la pensée critique. Voilà. Je commence donc sur Membe. Donc, chez Membe, en particulier donc, dans Politique de l'inimitié et dans Brutalisme, la nécropolitique est renvoyée à des dispositifs de subjectivation portant principalement sur ce qu'on pourrait appeler la psychosomatique, à savoir les affects et les pulsions. Ces dispositifs répriment, selon Membe, je le cite, les énergies de liaison par lesquelles notre fond de vulnérabilité commune, c'est encore une citation de Membe, est appréhendé. À l'inverse, ces dispositifs de subjectivation stimulent ce qu'il appelle la pulsion de tuer et le désir de vengeance, avec pour effet principal d'empêcher que nous soyons touchés et affectés par les innombrables corps de douleur, je le cite encore, et que nous nous reconnaissions comme exposés à la souffrance et à la dégénération. Pardon. Il estime à ce titre que desserrer l'étau, je vous demande de noter cette idée de desserrer l'étau, ce qui menace d'étouffement, c'est encore un terme de Membe, la personne assujettie, suppose un travail d'ordre thérapeutique. Une cure visant à faire émerger un corps nouveau, c'est là encore un terme de Membe, où la circulation continuelle de l'énergie vitale révélerait la personne humaine comme composée de multiples entités vivantes et pousserait à réaliser toutes sortes d'agencements de force fondés sur le soin. Membe problématise ainsi, je le cite, une éthique de la réparation et du soin, dont le but est de permettre au corps de reconnaître et d'accepter leur vulnérabilité, ou encore d'admettre que vivre, c'est toujours vivre exposé, y compris à la mort, dit-il, et d'ainsi relationner sur un autre principe que le principe de destruction, le principe d'engendrement d'autres flux de vie. J'imagine que vous sentez à quel point les échos, enfin les concepts, les manières de théoriser finalement la vulnérabilité chez les théoriciennes féministes se retrouvent dans cette manière de concevoir le travail thérapeutique. Chez Membe, c'est d'abord à la clinique fanonienne qu'il se réfère pour penser ce pacte de soins. Il le théorise avant tout comme une levée de ce qui un desserrement de l'étau de ce qui opprime et oppresse les corps. Ce qui est important, à mon avis, de noter, c'est que cette idée de lever des choses a reconduit un virilisme ontologique dont le nœud est vitaliste et qui consiste à considérer que la vie, une fois advenue, est d'elle-même vigoureuse sur le plan physique et sur le plan moral. Je pourrais y revenir au moment des questions, mais ce virilisme ontologique est essentiellement lié au fait que Membe reprend dans les grandes lignes la conception qu'Agamben se fait des rapports entre souveraineté, vulnérabilité et violence politique. Il a pour effet, ce virilisme théorique, de mener Membe à considérer la figure du passant comme étant la figure principale de cette thérapeutique. La figure du passant, c'est ce que j'aimerais montrer maintenant, lui avec des lunettes féministes, relève au plus chez Membe d'une justification normative de la position de passager clandestin du travail de care. Membe voit dans la manière dont Fanon, au cours de son existence, est passé de lieu en lieu, échappant à la menace de fixation, d'enfermement et d'étranglement, l'illustration de la façon dont un tel principe d'engendrement fonctionne, en tissant avec ces lieux et leurs habitants, je le cite, un double rapport de solidarité et de détachement, mais jamais d'indifférence, et en reconnaissant que ce n'est qu'en s'écartant d'un lieu qu'on peut mieux le nommer et mieux l'habiter. Fanon, selon Membe, en mettant ainsi en œuvre le droit de visite kantien, matérialise contre la frontiérisation des corps et du monde le fait que tout être humain peut se proposer comme membre d'une société en vertu du droit à la commune possession de la surface de la Terre. Le problème de cette éthique du passant, inspirée donc de Kant, c'est que Membe faillit très largement à théoriser les activités de care sans lesquelles ni le départ d'une société, ni l'accueil du visiteur de passage sont possibles. Il n'explique pas, par exemple, comment le visiteur, en se greffant sur la mode de la solidarité et du détachement aux habitants d'un lieu, va participer à de telles activités. Il ne soulève pas non plus la possibilité que la transformation de l'organisation de ces activités soit incompatible avec la nécessité qu'il note expressément que pour se rendre libre, il faille se séparer de là où on habite et qu'on incarne finalement un idéal de la traversée. Plutôt, il évoque, je le note, lyrique, la femme, car s'agissant de la durée et de la renaissance du monde, dit-il, elle n'est finalement que l'énigme et en même temps le secret. Évocation bien pratique, notons-le, du mystère féminin. Membe n'explique pas non plus, présupposant plutôt qu'il n'y a de corps qu'animés et en mouvement, comment les géographies sexistes, validistes et adultistes dans lesquelles nous évoluons aujourd'hui seront transformées par cette éthique de la traversée. On se demande bien, en définitive, qui va traverser à travers cette éthique. En d'autres termes, tandis que les approches féministes de la vulnérabilité et du soin insistent sur le fait que l'organisation actuelle des activités de care renvoie à des dépendances irréductibles dont le traitement est naturalisé et que celles-ci génèrent des dépendances secondaires qui limitent tant matériellement que symboliquement la capacité des concernées à se détacher des relations dans lesquelles elles sont prises, car cela met en jeu leur survie. Membe promeut, bien qu'il s'en défende, un éloge de l'exil, du refuge, de la fuite ou du nomadisme, où ces obstacles à la libération ne sont absolument jamais théorisés. Le choix d'une figure adulte, exerçant un soin dont l'horizon est curatif, donc Fanon, plutôt qu'une figure qui recevrait ou exercerait un soin qui aurait le rêve de l'aide ou du soutien, et non de la réparation ou la guérison, et donc n'a pas véritablement d'autre fin que la mort, le mène ainsi à promouvoir un schéma de libération qui repose sur des présupposés validistes, et adultistes et sexistes, particulièrement excluants et discriminants. Le droit de visite, à travers lequel Membe rend compte de son éthique de la traversée, consolide un schéma d'association fondé sur la réciprocité et la mutualité, qui, sous couvert de faire place à l'interdépendance, à la solidarité et au détachement, naturalise le travail contraint par lequel les visiteurs verront leur bien-être physique, moral, assuré. La libération, en d'autres termes, des soignants et des soignés, repose ainsi de tout son poids sur celles qui ne soignent pas, ni n'ont à être soignées, et dont on sait, en particulier grâce aux travaux du Black Feminism, mais ce ne sont pas les seuls, qu'elles sont, du fait même de l'histoire coloniale à laquelle Membe rapporte le principe de destruction, majoritairement des personnes féminisées, infantilisées et racisées, en situation de pauvreté. Bref, dans l'éthique du passant telle que nous la présente Membe, être libre et être carefree continuent d'être synonymes. Je voudrais pour conclure souligner que Membe aurait pu théoriser tout autrement ce qu'il appelle la pharmacie existentielle et clinique de Fanon. Comme le montrent des travaux bien moins connus, comme ceux d'Alexander Whaley ou de Heike Schoten, ou même encore d'Elsa Dorlin, qui prennent aussi comme point de départ les rapports entre vulnérabilité, souveraineté et biopouvoir, se réfèrent aussi
à des philosophies du soin et de la vulnérabilité, mais qui les analyse à partir d'autres pensées, non pas celles d'Agamben, par exemple, mais plutôt celles d'Hortense Spiller, de Sylvia Winter ou encore de, Nancy Naples. Il advient de s'interroger sur la mobilisation de certains tropes virilistes caractéristiques du sujet libre, blanc, bourgeois, du canon de la philosophie politique. À ce titre, je crois qu'il est important que nous résistions collectivement à ces mécanismes de production et de diffusion des savoirs qui font que cette diffusion et cette production est rendue plus importante lorsque nous utilisons ce canon. Car ne pas le faire, ne pas se questionner, c'est nous faire perdre la main, tant à l'intérieur de l'université qu'en dehors, sur la théorisation de politique intersectionnelle du CAIR, qui fasse réellement place à celles qui sont assignées à le faire et à celles qui sont assignées à le faire et à celles qui sont assignées à le recevoir. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Lucille. Bien, donc je vais passer la parole maintenant à notre dernière intervenante pour cette session, qui est Nathalie Grandjean. Donc Nathalie, tu es docteur en philosophie de l'Université de Namur. Depuis octobre 2021, tu as rejoint l'Université de Louvain à Bruxelles pour 3 ans, dans le cadre d'un mandat de chargée de recherche FNRS, sous la supervision de Bénédicte Zitouni. Tes domaines de recherche sont le corps et la technologie, l'éthique du numérique, ainsi que la philosophie féministe et de genre et les écoféminismes. Et tu as notamment publié « Généalogie des corps de Donna Haraway, féminisme, diffraction, figuration » aux presses de l'Université libre de Bruxelles. Donc je te laisse la parole pour une intervention intitulée « Théorie, théorisation, pensée, comment des philosophes féministes renouvellent les pratiques philosophiques ?»
Merci beaucoup, comme tout le monde. Merci beaucoup d'avoir organisé le colloque. Et merci de m'avoir donné une place dans le panel. Donc, j'en suis vraiment honorée. Le temps de parole est court et on le sait, donc je vais aussi essayer de respecter mon temps. Mais je vais tâcher de vous présenter un petit chemin de pensée féministe. En écrivant ma proposition, le petit abstract il y a quelques mois, j'ai été évidemment fort ambitieuse. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, je suis toujours un peu trop ambitieuse. J'ai d'ailleurs bien conscience que tout ce dont je vais parler aujourd'hui mériterait un déploiement plus long, plus lent. Donc, voilà, je voudrais demander de me pardonner si je prends parfois quelques raccourcis dans ce petit chemin. Alors, bien entendu, je vais commencer par la question qui agite toutes les philosophes ici présentes. Qu'est-ce que le féminisme fait à la... Je dis bien entendu, mais... Qu'est-ce que le féminisme fait à la philosophie ? Ce n'est pas forcément bien le cas, d'ailleurs. En tout cas, c'est la question que j'ai choisie. Qu'est-ce que le féminisme fait à la philosophie ? En quoi fait-il vaciller le corpus, les méthodes, les savoirs philosophiques ? Je ne suis bien entendu ni la première ni la dernière à me poser la question, mais c'est ici que je commence mon petit chemin. Alors, parmi celles dont nous héritons en philosophie féministe, il y a notamment une anthologie critique dirigée par Françoise Collin, Evelyne Pizier et Leni Varikas en 2011 qui s'appelle « Les flammes des femmes de Platon et Derrida » et qui interroge l'absence des femmes en philosophie. Alors, ces trois coordinatrices, autrices, ont souligné le sexisme ambiant et montré que l'invisibilité des femmes fabrique au corpus un masculin universel qui permet la neutralisation du sujet philosophique. On a déjà parlé beaucoup de ça ce matin. Donc voilà, c'est une chose j'ai l'impression sur laquelle on est assez d'accord, mais dans cette anthologie qu'on peut aussi qualifier de l'absence et du mépris, et ça aussi on en a parlé ce matin, du mépris et de l'absence, elles insistent sur le fait que la question de la sexuation se présente toujours comme une question de femmes, ne concerne que les femmes. Et si les hommes sont les seuls sujets possibles de la philosophie, c'est sans doute parce qu'ils n'ont pas de sexe, mais surtout parce que les femmes en ont un. Les femmes deviennent, dans la philosophie, comme dans ce qui leur est concédé en subjectivité, un premier autre bien utile. C'est utile d'ailleurs que leur absence ou leur exclusion est peut-être bien une des caractéristiques de la philosophie, voire même ce qui en fait un des fondements. Comme n'a pas peur de le dire Monique David-Ménard, je cite, « L'exclusion des femmes est la condition de possibilité du discours philosophique et de son universalité. » Alors, un autre recueil marquant sur cette question est le numéro 46 des Cahiers du Griffe, on a aussi parlé ce matin. Donc j'ai été un peu influencée parce que j'ai aussi participé à cette espèce d'anniversaire, grand anniversaire des 50 ans, donc je vais... j'ai beaucoup relu, donc ça m'a un peu inspirée. Édité ici, ce numéro en particulier par Françoise Collin, en 92, qui s'intitule « Provenance de la pensée, femme, philosophie ». Il est donc antérieur à l'anthologie critique que je viens de citer. Alors, dans ce recueil, il y a un texte de Geneviève Frest, dont je suis vraiment très honorée de pouvoir qu'elle entende. C'est toujours un peu étrange de parler de commenter les travaux de quelqu'un qui est là dans la salle. Donc, il y a quelque chose d'un peu étrange. Bon, en tout cas, dans cette anthologie, dans ce cahier, il y a un texte qui s'appelle « La lucidité des philosophes ». Et Geneviève Fraisse nous explique que les hommes philosophes sont coincés par la question de la misogynie en philosophie parce qu'au fond, ils sont conscients du problème, mais ils ne savent pas comment le penser. Alors, je la cite, « Ils savent. Ils savent que le phallocentrisme a de bonnes raisons d'être critiqué. Ils savent que le féminisme implique la fin de l'autre sexe. Ils savent qu'ils construisent un cercle où le sujet femme est incertain, où la différence des sexes ne se trouve pas toujours dans une pensée de la différence et du féminin. Un peu plus loin, ils ont conscience des difficultés épistémologiques. À quelles conditions puis-je parler de cette question, moi qui suis un homme, et des enjeux politiques, on n'évitera pas de parler de l'émancipation des femmes. Fin de la citation. Double mépris donc, de la part des hommes philosophes, les femmes sont les altérités nécessaires de la philosophie, et en plus, ils le savent, mais ils n'ont pas envie de le penser. Alors bon, voilà, dans ce même numéro, je continue, dans ce même numéro, Colin, dans ce petit chemin que j'essaye de faire, dans ce même numéro, Colin annonce dans l'avant-propos, je la cite aussi, « D'où pense-t-on quand on pense ?» résonne comme une question qui pourrait être le leitmotiv de ce recueil. Provenance, au pluriel, de la pensée philosophique se suturant toujours à quelque chose dehors d'elle-même, dit ou tu, exhibé ou refoulé, et ici affronté par chacune dans sa propre démarche et celle des philosophes analysés. Car toute pensée se prélève sur un site, nommé ou innommable. Pour y faire événement, site grec, juif, oriental, moderne, mais aussi aujourd'hui, féminin, masculin, trois petits points. Donc c'est vraiment les toutes premières phrases de ce cahier. Alors, la question de la provenance est importante et je pourrais, toujours à la suite de Geneviève Fraisse dans son ouvrage « Féminisme et philosophie », choisir de penser la provenance de manière foucauldienne, c'est-à-dire, comme en citant toujours Geneviève Fraisse, une mise en perspective qui cède de la généalogie ou comme une souche qui permet la prolifération. Mais je ne vais pas choisir de penser la provenance comme ça. Je préfère plutôt la penser, penser que l'importance de la provenance chez les philosophes féministes est liée par exemple, enfin, entre autres, à des expériences matérielles incorporées, c'est-à-dire, pour le dire de manière moins jargonneuse, à des tranches de vie tout à fait ordinaires, mais qui sont traversées par la pensée, qui la font surgir, et dont la pensée a besoin de se souvenir pour rendre compte de ce qu'il a fabriqué. Et ici, je voudrais vous donner trois exemples de petites tranches, comme ça, chez Virginia Woolf, chez Judith Butler et chez Donna Haraway. Alors, je pense que vous connaissez Une chambre à soi, donc je ne vais pas vous faire l'insulte de remettre un peu faire un contexte, hein. Et j'en ferai donc pas une présentation étendue, mais vers le premier tiers de l'ouvrage, Virginia Woolf nous expose les raisons pour lesquelles les femmes qui pensent font peur aux hommes. Je la cite. Et cela explique aussi pourquoi la critique féminine inquiète tant les hommes, pourquoi il est impossible aux femmes de dire aux hommes que tel livre est mauvais, que tel tableau est faible, ou quoi que ce soit du même ordre, sans faire s'ouvrir davantage et éveiller plus de colère que ne le ferait un homme dans ce cas. Si une femme, en effet, se met à dire la vérité, la forme dans le miroir se rétrécit, son aptitude à la vie s'en trouve diminuée. Comment un homme continuerait-il de dicter des sentences, de civiliser des indigènes, de faire des lois, d'écrire des livres, de se parer, de pérorer dans les banquets, s'il ne pouvait se voir pendant ses deux repas principaux d'une taille pour le moins double de ce qu'elle est en vérité ? Bon, voilà, toute l'ironie. Ainsi pensais-je, alors c'est là que ça m'intéresse, ainsi pensais-je, émiettant mon pain, remuant mon café et de temps à autre regardant les gens dans la rue. Et au-delà de cette critique, hein, dont on a déjà tracé les contours et dont ici, voilà, et ce matin aussi, évidemment, ce qui m'intéresse ici, c'est l'incise, ponctuée du « ainsi pensais-je hein, ». Et si on s'amuse à regarder dans cet ouvrage, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de fois dans ce texte « ainsi pensais-je », qui nous dit où elle était et ce qu'elle faisait quand elle pensait. Elle émiette son pain, elle remue son café, elle regarde les gens passer dans la rue. Alors, je continue avec un autre exemple tiré d'une préface de Judith Butler à la seconde édition de Troubles dans le genre. En 1999, mais traduction française 2005, si je ne m'abuse. Dans cette préface, elle revient sur les raisons qui l'ont poussée à écrire « Troubles dans le genre », sur les éléments théoriques et sur les controverses qui ont suscité son ouvrage. Ben, c'est une magnifique préface, d'ailleurs, c'est une très belle synthèse. Mais alors aussi, là, elle va, elle aussi, nous livrer quelques traits singuliers de la provenance. Je la cite, bon, je vais citer beaucoup, en fait, ça, je n'ai pas dit. Donc, désolée, ça fait un peu la fille qui cite pour citer, mais voilà, ça a un peu aussi donné du corps une manière de faire. Enfin bon, bref. Permettez-moi encore de mentionner un aspect qui touche aux conditions de production du livre et qu'on ne comprend pas toujours. C'est qu'il est né d'une rencontre entre le monde académique et les mouvements sociaux auxquels j'ai participé et qu'il est le produit intérieur, entre guillemets, d'une communauté gay et lesbienne sur la côte des États-Unis dans laquelle j'ai vécu pendant 14 ans avant d'écrire ce livre. Un peu plus loin, j'ai participé à de nombreuses réunions, mais aussi à des marches, j'ai fréquenté la vie nocturne des bars. Et c'est ainsi que j'ai rencontré toutes sortes de gens et presque autant de genres. Ça m'a permis de comprendre moi-même à l'intersection de certains d'entre eux et de vivre la sexualité dans la marginalité. Encore un peu plus loin, je menais une double vie académique et extra-académique, comme certaines féministes d'entre nous. Même si Gender Trouble est un ouvrage académique, tout a commencé pour moi, voilà ici l'insiste que je voulais vous souligner, tout a commencé pour moi par un chassé-croisé alors que j'étais assise sur la plage de Rehoboth à me demander si je pouvais relier les différents aspects de ma vie. Voilà, deuxième tranche. Et oui, enfin, c'est comme des petits moments cinématographiques, comme ça. Troisième fois. Enfin, chez Donna Haraway, dans le texte « Savoir situé », qu'on ne présente plus non plus, évidemment, on trouve également une incise de la sorte. Je la cite aussi. « L'objectivité féministe est une affaire de place circonscrite et de savoir situé, pas de transcendance et de division entre sujet et objet. Ainsi seulement pourrons-nous répondre de ce que nous avons appris à voir. » Et l'incise arrive. « Ce sont les leçons que j'ai apprises en partie en me promenant avec mes chiens et en me demandant à quoi le monde ressemblait quand on n'a pas de fovéa et seulement quelques cellules rétiniennes pour la vision des couleurs, mais un développement nerveux et une aire sensorielle énorme pour les odeurs. » Fin de citation. Donc, voilà, des provenances de la pensée qui s'inscrivent dans des moments singuliers, décrits de manière quasi cinématographique. Une à la fenêtre en train d'observer la rue, buvant et mangeant, la deuxième assise sur une plage, et la troisième marchant avec ses chiens dans les forêts de Santa Cruz. Ces trois moments sont des scènes où la pensée surgit, et j'ai été intéressée par le fait que ces trois philosophes ont eu besoin de le dire et de les décrire dans des textes théoriques de manière très très précise. Comment faire des incises dans les textes critiques et théoriques? Ça m'a un peu interpellée, quoi. Alors, je reviens à la question d'où on pense quand on pense. J'en reviens encore à la question, mais je voudrais à présent tirer un autre fil en nouant les deux premiers déjà présentés, celui donc de l'exclusion des femmes en philosophie à cause de leur sexe et celui de la nécessité d'en garder trace dans le texte de ce qui a fait surgir la pensée. Alors, je pourrais dire qu'il y a un point commun, c'est la matérialité corporelle. Soit dans l'exclusion parce que nous avons encore, alors que les hommes de science n'en ont pas, rappelez-vous la formule d'Haraway dans Savoir situé, qui décrit les épistémologues féministes comme contraintes d'avoir un corps et un point de vue fini, soit dans l'incise volontaire qui appelle à ne pas oublier où et comment est mon corps quand je pense. Et pour terminer, je voudrais donc tirer un fil, un dernier fil, afin de l'accrocher aux deux premiers. Donc, ce n'est pas une synthèse, mais c'est, voilà, j'accroche un autre fil. Il me semble que ces deux fils, l'un critique, l'autre qui est un peu comme une espèce de pense-bête, d'où ma pensée a surgi, font partie des processus qui permettent de donner un nouveau corps à la philosophie. Alors, en disant corps de la philosophie, je ne veux pas simplement jouer sur les mots, corpus, etc., ou faire quelque chose comme une nouvelle métaphore. Je pourrais, mais je n'ai pas le temps. Je veux dire que cela permet de faire émerger des nouvelles manières de faire la philosophie, et c'est bien ça qu'est faite d'ailleurs la philosophie, me semble-t-il, de manières qui parfois même deviennent du maniérisme, de techniques, d'outils. En tout cas, c'est comme ça, tout qui, je rappelle aussi la formule de Deleuze, hein, faire des concepts. Voilà. On pourrait se dire qu'on fabrique quelque chose de nouveau, et c'est en cela que je retiens l'idée d'un nouveau corps. Pour vous donner à imaginer ce nouveau corps, je m'appuierai à nouveau sur Colin, puis sur Haraway, pour terminer sur un contrepoint. Entre ces deux-là, l'insistance de la pensée est centrale, tant pour se démarquer de la théorie chez Colin que pour en faire une technologie pensante, Haraway qui appelle ça « thinking technology », donc, technologie de pensée, technologie pensante, bon, on pourrait discuter évidemment de traduction. Alors, Françoise Colin, dans un entretien qu'elle donne en 2001 à Florence Rochefort et Daniel Haas-Dubosc, insiste sur la différence entre théorie et pensée. La pensée, à la différence de la théorie, qui fixe et qui fiche des traits des vérités, explore, chemine, prend des chemins de traverse, elle est en route, elle est en mouvement. Hein, un peu exactement comme le mouvement féministe d'ailleurs. Alors, de nouveau, je la cite, c'est important, hein. La théorie constitue un cadre fixe auquel se tenir pour évaluer les questions nouvelles. Elle n'est pas liée au moment de l'interrogation, mais de l'affirmation. Elle détermine les contours d'une position, voire même isole des causes. Elle séduit par sa clarté rassurante, voilà la vérité. Mais elle risque toujours de tourner à l'idéologie. Quant à la pensée, elle interroge, elle suit son chemin, elle prend des chemins de traverse, qui ne mènent nulle part, pour reprendre l'expression d'Heidegger, mais, dit bien Colin, qui ouvre des clairières. La pensée retient la question dans son affirmation même. Elle prétend éclairer mais non déterminer la décision. Elle nourrit et fracture tout à la fois la théorie. Alors encore un peu plus loin, parce que j'ai un peu quand même coupé toutes mes grandes citations. La langage est toujours menacée par l'encodage idéologique auquel risque de succomber la théorie. Elle doit être constamment rouverte et la conquête des certitudes ravivée par l'incertain. Le mouvement et le mouvement des femmes si bien nommé est un aller vers. La théorie commande, la pensée explore. Voilà, bon, ça j'ai trouvé que c'était vraiment très, très intéressant, si vous voulez, de ce contraste entre théorie et pensée. Et alors, Donna Haraway, en 2006, elle accorde un entretien à Nicholas Gane, qui donnera lieu à un article, hein, qui s'appelle « When we have never been human, what is to be done ?» publié dans Theory, Culture and Society. Elle s'explique sur comment elle s'y prend pour travailler. Hein, et elle dit, bon, elle explique plein de choses, évidemment, mais elle explique, entre autres, qu'elle utilise des technologies de pensée, des « thinking technologies ». Elle dit, je l'ai traduit, c'est ma traduction, « Je pense que m'entraîner avec ma chienne est une technologie de pensée pour nous deux, parce que ça nous amène à apprendre comment être attentives l'une à l'autre, et à faire quelque chose qu'aucune de nous n'aurait pu faire avant et ne peut faire seule, et à le faire d'une manière réglementée, en jouant à un jeu spécifique. Il y a des règles arbitraires qui vous permettent de jouer ou d'inventer quelque chose de nouveau, quelque chose au-delà de la communication fonctionnelle, quelque chose d'ouvert. Penser, c'est donc expérimenter quelque chose d'ouvert. Et cela se donne, se pratique à travers une potentialité d'expérience singulière et corporelle, comme les cours d'agility. Donc, c'est les cours où on fait monter son chien sur des tas d'endroits. Là. Enfin, caricature, fait ça dans les cerceaux, avec sa chienne. Mais les technologies de pensée ne s'arrêtent pas là, dit Haraway. On peut appeler technologie de pensée tout projet de connaissance qui aura pour effet de transformer celles et ceux qui y participent, de manière à être touchés et de ne plus voir le monde de la même manière. Et je la cite, « Les technologies de pensée réorganisent le monde à des fins, mais vont au-delà de la fonction et de l'objectif pour atteindre quelque chose d'ouvert, quelque chose qui n'est pas encore là. » Et alors, juste après, de manière, je trouve, tout à fait inattendue, me semble-t-il, Nicolas Gaine fait alors, fait de tout d'un coup revenir Platon dans la discussion. Hein. Platon, notre vieux papy de la philosophie. Hein, et alors, Nicolas Gaine nous dit, en ce sens, le dialogue peut peut-être être considéré comme une technologie de pensée. Je pense par exemple au symposium de Platon et au fait qu'on n'entre jamais dans un dialogue au même endroit que l'on sort, car les choses changent au cours du dialogue. Et Haraway nous répond exactement. Le travail dialogique, c'est exactement cela. Il ne s'agit pas de synthèse dialectique, sauf de manière provisoire et partielle. Voilà. Comment fabriquer un nouveau corps à la philosophie, si vous voulez. Fabriquer de la pensée. Alors, voilà, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y a le temps. Mais voilà, donc moi, j'ai trouvé ça drôle, en fait, amusant de revenir à Platon, terminé par là, et à cette ancienne forme du corps de la philosophie. La première forme du corps de la philosophie, en fait. Et de la relier à la possibilité d'une métamorphose d'un ancien corps pour peut-être le régénérer. Alors, je terminerai sans faire de synthèse dialectique, d'abord parce que ça ne m'intéresse pas, mais surtout parce que je ne voudrais pas clore ce chemin, justement, mais je voudrais rester dans les clairières ou sur une plage ou bien dans les forêts de Santa Cruz ou encore à la fenêtre d'une maison britannique et me laisser traverser par comment la pensée peut surgir. Je vous remercie.